VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 19 mai 2022. Voici les titres. Au Burkina Faso, 7 soldats et un civil ont été tués ce jeudi dans 2 attaques de djihadistes présumés. Au Nigeria, suspension du contrôleur général des finances publiques après son arrestation pour corruption. En République démocratique du Congo, saisie d'une tonne et demie d'ivoire de contrôle. Bande et arrestation de 3 trafiquants à Lubumbashi. Après avoir reçu la première ministre suédoise et le président finlandais, Joe Biden a annoncé saisir le Congrès américain pour approuver la candidature de leur pays à l'OTAN. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Burkina Faso, au moins 7 soldats et un civil ont été tués dans 2 attaques de djihadistes présumés, l'une contre un détachement militaire dans l'Est et l'autre contre un autocar dans le Nord. Michel Joseph nous en dit plus.
Le détachement militaire de Madjouari, commune rurale de la province de Kopianga dans l'Est, a été la cible d'une violente attaque tôt ce matin, selon une source sécuritaire. Le bilan provisoire fait état de 7 soldats tués et d'importants dégâts matériels. Des renforts, dont un appui aérien, ont été déployés dans la zone pour des opérations de ratissage. Un élu local a confirmé l'attaque, déplorant la chute du détachement militaire qui constituait le dernier rempart de la commune de Madjouari contre les djihadistes. Dans la même matinée, des individus armés ont attaqué un autocar à Seitenga, dans la province du Sénou, dans le Nord. Un civil avait été tué et une dizaine de passagers blessés. Samedi, une quarantaine de supplétifs de l'armée et des civils ont été tués dans 3 attaques dans les mêmes régions. Ces attaques se poursuivent alors qu'une mission de la CEDEAO termine aujourd'hui une visite de 2 jours à Ouagadougou pour évaluer la situation.
Au Nigeria, le gouvernement fédéral a suspendu indéfiniment le contrôleur général des finances publiques après son arrestation par des enquêteurs de la Commission pour les crimes économiques et financiers. Il est accusé de fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Pour le gouvernement fédéral, la suspension d'Ahmed Idriss est pour permettre une enquête appropriée sur les allégations contre lui. Il a été arrêté pour fraude, blanchiment d'argent et détournement de près de 200 millions de dollars des coffres de l'État. Il est détenu par l'agence anticorruption et n'a pas encore commenté ses allégations. Ahmed Idriss était le contrôleur général des finances publiques du Trésor nigérien, un poste qu'il a occupé depuis 2015 après sa nomination par le président Muhammadu Buhari. M. Buhari a toujours fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Depuis son arrivée au pouvoir, plusieurs politiciens, hommes d'affaires, ont été jetés en prison, certains l'accusant de chasse aux sorcières. En 2021, le gouvernement dit avoir récupéré environ 800 millions de dollars de biens pillés ou volés des caisses de l'État. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Au Nigeria toujours, la police a annoncé avoir arrêté 2 hommes soupçonnés d'être les responsables de l'enlèvement d'une 20aine d'étudiants et du meurtre de 5 d'entre eux de l'université de Greenfield dans l'état de Kaduna en avril 2021. Les 2 suspects, Aminu Lawal et Murtala Daou, impliqués dans plusieurs cas d'enlèvement, vont être traduits en justice au terme de l'enquête, a précisé la police. Au Tchad, un 6e cadre de la société civile a été incarcéré pour trouble à l'ordre public au cours d'une manifestation violente samedi contre la présence militaire de la France, a indiqué le parquet de N'Djamena. 12 policiers avaient été blessés et 7 stations totales vandalisées. Maître Max Longar, coordinateur de Wakitama, est inculpé pour les mêmes motifs que les 5 autres et mis sous mandat de dépôt et déféré à la maison d'arrêt de Klessoum, a annoncé le procureur Moussa Wade Djibrin. En République démocratique du Congo, une cargaison d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande a été saisie le week-end dernier et 3 trafiquants présumés ont été arrêtés à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Samedi, nos services ont saisi quelques 1500 kg d'ivoire, a déclaré une source judiciaire. Elle a ajouté que 5 personnes qui transportaient cet ivoire dans des camions ont été arrêtées, mais 2 se sont enfuies après interrogatoire. Les 3 Congolais arrêtés disent être de simples transporteurs qui ne connaissent pas la provenance ni la destination finale des colis. Maître Sabin Mandé, avocat du réseau Ressources Naturelles, une plateforme d'ONG environnementale, assure avoir vu au parquet de Lubumbashi 18 sacs pleins d'ivoire. D'après lui, cela représente l'abattage de 80 à 100 éléphants. La plus grosse saisie récente dans le monde a été effectuée au Vietnam avec 9 tonnes d'ivoire découvertes en mars 2019 sur un bateau en provenance du Congo. Le commerce illégal d'ivoire est la 3e forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Il est alimenté par une forte demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses d'éléphants sont très prisées.
Le navire Océan Viking de SOS Méditerranée a secouru aujourd'hui 158 migrants au large de la Libye à bord de 2 embarcations pneumatiques, a annoncé l'ONG. Parmi eux se trouvaient 6 femmes enceintes et plusieurs enfants, dont un bébé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis affirme que la Suède et la Finlande remplissent tous les critères pour adhérer à l'OTAN. En recevant les dirigeants de ces 2 pays ce jeudi, Joe Biden a annoncé saisir le Congrès américain pour qu'il approuve leur candidature. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président américain a réitéré son soutien à la candidature à l'Alliance Atlantique de ces 2 pays. Il a répété que les États-Unis allaient travailler avec les 2 pays nordiques pour faire face à toute agression dont ils pourraient faire l'objet pendant la procédure d'adhésion. La visite de la première ministre suédoise Magdalena Andersson et du président finlandais Sauli Niinisto intervient au lendemain des candidatures officielles de leur pays à l'OTAN. Si la grande majorité des membres de l'OTAN soutiennent cette procédure, la Turquie a, elle, menacé de bloquer le processus. Le président finlandais Sauli Niinisto a assuré être prêt à discuter avec Ankara de toutes ses inquiétudes. « Nous condamnons le terrorisme dans toutes ses formes », a-t-il ajouté, alors que les autorités turques reprochent aux 2 pays d'héberger des terroristes du PKK. La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a elle déclaré qu'un dialogue était en cours avec la Turquie pour résoudre ces questions.
Les chefs d'état-major américains et russes se sont parlé ce jeudi au téléphone pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé le Pentagone. Le général Mark Milley et le général Valery Gerasimov ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité, a précisé le porte-parole de l'état-major américain, le colonel Dave Butler. D'un commun accord, ils ont décidé de ne pas publier les détails de leur conversation. L'ONU exhorte la Russie et l'Ukraine à reprendre les pourparlers en Turquie qui sont au point mort. La reddition de combattants d'Azovstal n'aurait pas pu avoir lieu sans la coopération entre les autorités des 2 pays, a déclaré à Genève le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence, Martin Griffiths. Le fait que cette coopération a bien fonctionné est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, a estimé Monsieur Griffiths, soulignant qu'il faut insister sur la vertu du dialogue pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les sénateurs américains votent ce jeudi une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les intérêts stratégiques américains seront façonnés à l'issue de ce conflit, a estimé le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, avant le vote de la Chambre haute qui devrait approuver ses financements au sein de ce grand paquet d'aide. 6 milliards de dollars sont destinés à l'armement, 9 milliards doivent assurer la continuité des institutions démocratiques ukrainiennes et un large volet est réservé à l'humanitaire. La Chambre des représentants a déjà approuvé ces 40 milliards de dollars la semaine dernière. En mars, le Congrès avait aussi débloqué près de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine et la Serbie subit depuis le 11 mars des centaines d'alertes à la bombe par des courriels envoyés de l'étranger visant des écoles, des hôpitaux et des ponts, indique le ministère de l'Intérieur. Toutes les alertes se sont avérées fausses et aucune n'a été revendiquée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Rosine Mounezero.
L'Afrique du Sud a augmenté son taux d'intérêt pour la troisième fois consécutive jeudi, alors que l'inflation reste élevée. L'augmentation d'un demi-point a porté les taux à 4,75%. Les responsables de la politique monétaire souhaitent maintenir l'inflation entre 3 et 6%. En mars et avril, l'inflation des prix à la consommation s'est élevée à 5,9% malgré deux augmentations antérieures des taux d'intérêt cette année. En 2020, la banque avait radicalement réduit les taux d'intérêt à 3,5% pour aider l'économie à faire face à la pandémie. Le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Mey, annonce qu'il va présider le 24 mai à Yaoundé une table ronde des investisseurs, rapporte l'agence Ecofin. La rencontre vise à intéresser et mobiliser les bailleurs de fonds autour du projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé et l'aménagement de ses quatre pôles urbains. Le gouvernement camerounais est à la recherche d'1,264 milliard de francs CFA pour financer ce projet. Les ministres des Finances du G7 se rencontrent en Allemagne pour passer en revue les répercussions sur l'économie mondiale de la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière la rallonge de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les ministres du G7 vont également discuter des questions liées à l'envolée des prix de l'énergie, les menaces de crise alimentaire et le spectre du surendettement dans de nombreux pays en développement.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Pierre-Emerick Aubameyang prend sa retraite internationale.
Oui, l'attaquant gabonais du FC Barcelone met fin à sa carrière internationale à 32 ans. L'information est de Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères. Information confirmée par la Fédération gabonaise de football. D'après Neveu, dans une lettre officielle envoyée à la Fédération gabonaise de football, Pierre-Emerick Aubameyang explique qu'après 13 ans de fierté à représenter son pays, il met un terme à sa carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments, écrit Aubameyang. La Fegafoot salue l'immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre grâce à son professionnalisme l'image du Gabon dans le monde.
6 femmes parmi les arbitres qui officieront au Mondial 2022.
Parmi elles, la Rwandaise Salima Mukunsanga, elle fera partie, tout comme la Française Stéphanie Frappard et la Japonaise Yoshimi Yamashita, des 36 arbitres de champ, la Brésilienne Nyusa Bach, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l'Américaine Catherine Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants. Ces 6 femmes font partie des 105 arbitres désignés pour la prochaine Coupe du Monde masculine Qatar 2022. Leur désignation est le résultat d'un long processus entamé il y a plusieurs années qui a commencé par la nomination d'arbitres femmes pour certaines compétitions masculines seniors et de jeunes de la FIFA, souligne dans un communiqué Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA.
NBA, Golden State est un Dallas en finale de la conférence Ouest.
Les Golden State Warriors ont dominé les Dallas Mavericks 112-87. Luka Doncic a été limité à 20 points dans ce match d'ouverture de la finale de la conférence Ouest. Dans une équipe soudée avec 7 joueurs à 10 points et plus, Stephen Curry de Golden State a mené la danse avec 21 points, 12 rebonds et 4 passes décisives, tandis que Jordan Poole et Andrew Wiggins ont compilé 19 points chacun. Le deuxième match de la série se déroule à San Francisco demain vendredi. Le vainqueur de cette finale de la conférence Ouest affrontera le vainqueur de la conférence Est, Boston ou Miami, lors de la finale de la NBA.
Et le championnat des arts martiaux mixtes débarque à Paris.
Oui, un peu plus de 2 ans après la légalisation de la discipline en France, l'UFC, principale organisation du MMA, organisera son premier événement dans l'Hexagone le 3 septembre à l'Accor Arena de Paris, annonce l'instance dans un communiqué. Mais sauf surprise, le Français Cyril Gann, cité dans le communiqué, devrait être la tête d'affiche de la soirée, le premier Français à se battre pour le titre des poids lourds de l'UFC.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, depuis plus d'une semaine, les automobilistes et chauffeurs de transport en commun à Bamako peinent à s'approvisionner en gasoil. Plusieurs stations d'essence sont en grève et l'embargo imposé par la CEDEAO depuis le 9 janvier a causé une pénurie de carburant. Notre correspondant Mohamed Danioko a fait un tour des stations-service dans la capitale malienne.
Il est 9h du matin et déjà la toute nouvelle station Yarawal du quartier des affaires ACI 2000, non loin du gouvernorat de Bamako, est bondée de véhicules. Pour supporter l'attente, Mokhtar Djiré écoute de la musique. Il y a une pénurie de gasoil dernièrement. C'est un peu partout dans la capitale Bamako. On souhaite que cela soit résolu et que la grève de certaines stations prenne fin. Celui qu'il suit directement est Adama Bakayoko. À 7h06 matinale, il affirme être à sa deuxième station Yarawal pour se procurer le liquide précieux. La première station qu'il a visitée était débordée. Difficile de trouver du gasoil à travers la ville. C'est pratiquement dans cette seule station qu'on en trouve. Même là, il faut beaucoup attendre. La première station où je suis passé, il y avait trop de monde. Je suis donc venu ici. C'est un peu plus mieux. J'ai le sourire, c'est bien tout le monde. Mais s'il y a bien un secteur qui souffre beaucoup plus que les autres, c'est bien les chauffeurs de transport en commun. Aboubakar Sidiki Konaté, chauffeur de taxi, explique son calvaire.
Nous autres chauffeurs de taxi souffrons le plus. Déjà qu'il n'y a pas assez de clients,
si on doit venir passer des heures à la station pour ensuite espérer avoir un client, ce n'est pas évident que nous puissions faire recette à la fin de la journée. Nous voulons que cela prenne fin plus vite.
Un peu négligé par les pompistes au profit des automobilistes, Moussa Fomba, motocycliste, dit prendre son mal en patience car cette pénurie est due à l'embargo qui frappe le Mali du fait de la volonté des autorités de redonner au Mali sa dignité. Il y a des stations en grève. Il y a aussi l'embargo qui frappe le pays. Ce sont des raisons selon nous. Mais en ce qui concerne l'embargo, si ce n'est que ça, nous sommes prêts à supporter car il s'agit de la volonté des autorités de donner une nouvelle orientation au Mali.
À noter qu'il y a moins d'une semaine, plus de 2 millions de litres de gasoil ont été livrés en provenance de la Guinée-Conakry. Et la reprise des stations en grève à partir de demain vendredi sont perçues comme des solutions à cette pénurie dans les tout prochains jours. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Les membres de la coalition mondiale pour vaincre le groupe État islamique, réunis récemment au Maroc, se sont engagés à soutenir les agences de sécurité africaines dans la lutte contre le terrorisme. Les hauts responsables américains de la sécurité affirment que le leadership et les voix africaines sont nécessaires pour adopter les meilleures stratégies. Un reportage de Mohamed Youssouf, relaté par Nani Talani.
Les responsables de la sécurité de la coalition mondiale pour vaincre le groupe État islamique se sont engagés la semaine dernière lors d'une réunion à Marrakech au Maroc à soutenir les agences africaines de sécurité dans la lutte contre les activités. La coalition, qui compte 85 membres, s'est réunie pour discuter des moyens de déloger les combattants alliés au groupe État islamique au Mali, au Burkina Faso, au Mozambique et dans plusieurs autres pays africains. Les activités terroristes ont augmenté ces dernières années, tuant des dizaines de milliers de personnes et faisant des milliers de déplacés. Chris Lundberg, coordinateur adjoint par intérim du département d'État américain pour la lutte contre le terrorisme.
Donc nous augmentons le financement chaque année et nous cherchons à l'utiliser pour améliorer les capacités de nos partenaires civils, chargés de l'application de la loi et judiciaires dans le but de perturber et d'appréhender, de poursuivre et de condamner des terroristes à travers le continent.
Akinola Olojo, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, affirme que les affiliés du groupe État islamique en Afrique sont différents les uns des autres et qu'il y aura besoin de stratégies sur mesure pour les vaincre.
Alors que nous reconnaissons qu'il semble y avoir une similitude en certains niveaux, d'une manière différente, nous voyons que même les acteurs impliqués ou les acteurs de l'insécurité impliqués, ainsi que la façon dont ils se rapportent aux communautés, la façon dont ils agissent contre l'État prend différentes expressions. Et nous devons comprendre ces nuances afin d'avoir des approches qui correspondent de manière adéquate à ce qui se manifeste dans les différents contextes.
Doug Ayotte, envoyé spécial adjoint pour la coalition mondiale pour vaincre le groupe État islamique, affirme qu'il est essentiel de contrer la propagation des djihadistes.
Ainsi, la coalition elle-même continuera probablement à lancer des plateformes contre ce que nous considérons être la jeunesse vulnérable. Certainement au Sahara, dans le Sahel et la région transsaharienne. Donc, ce sur quoi nous insistons avec les communications, c'est que ce n'est pas du haut vers le bas, mais c'est du bas vers le haut. Nous commençons donc au niveau local et nous travaillons avec les gouvernements membres et nous adaptons ce message à la langue, aux coutumes et aux traditions et à ce qui se passe ici. Et nous voulons vraiment que les membres africains soient au premier plan.
La stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies appelle les pays à s'attaquer aux conditions que les groupes terroristes utilisent pour propager leur idéologie. Elle appelle aussi à renforcer la capacité des États à prévenir et combattre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et l'état de droit. Le chercheur Akinola Olojo soutient que les agences de sécurité africaines ont été encouragées à utiliser différentes approches en dehors de la réponse militaire habituelle.
Les réponses par la force ont un rôle à jouer, bien sûr, mais en allant au-delà pour combler les lacunes en matière de gouvernance, en s'attaquant aux idéologies poussées par ses affiliés, en s'attaquant aux problèmes de violation des droits de l'homme, engager les communautés plus profondément ou plus efficacement, avoir un dialogue à plusieurs niveaux au sein des communautés. Toutes ces composantes sont des choses qui sont mises en évidence lors de cette réunion et nous verrons ensuite comment elle s'intègre dans une approche plus large.
Les responsables américains affirment que les leçons utilisées pour affaiblir le groupe État islamique en Irak et en Syrie peuvent être appliquées en Afrique, mais qu'il faudra des individus présents sur le continent pour obtenir des résultats.
Au Zimbabwe, des villageois déplacés il y a plus de 10 ans pour faire place à l'exploitation d'une mine de diamants du gouvernement en partenariat avec une société minière chinoise attendent toujours l'indemnisation promise et un logement convenable. Un reportage de Columbus Mavunga à Mutare, récit de Gini Kapumbu-Villa.
Environ 1200 familles ont été déplacées pour l'extraction de diamants au Zimbabwe. Les compagnies diamantaires leur ont reconstruit des maisons qui de loin ont l'air convenables. Mais Nixon Diou, aujourd'hui 81 ans, invite les représentants des mines de diamants et le gouvernement à regarder de plus près tout ça.
J'aimerais que l'un d'eux vienne passer une nuit dans la maison pour qu'ils le ressentent vraiment, parce que le simple fait d'en parler n'est pas assez pour leur faire comprendre. Ils doivent venir dormir là-dedans.
La société chinoise Anjin Investments et la société gouvernementale Marangi Resources détiennent la concession de diamants la plus lucrative de la région de Marangi, à environ 400 km à l'est de Harare. Le porte-parole d'Anjin, spécial Matari Rano, a déclaré que les sociétés minières sont conscientes des préoccupations des déplacés.
Notre société partenaire, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company, a promis et s'est engagée à ressusciter et à rénover ses maisons.
Outre les logements insalubres, les déplacés se plaignent du manque d'eau potable et de n'avoir qu'un seul hectare par famille pour une agriculture de subsistance par rapport aux vastes étendues de terre qu'ils ont laissées à Marandjé. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il répond et apaise toutes ses inquiétudes. Winston Chitando, ministre zimbabwéen des mines.
Il y a d'énormes interventions qui ont eu lieu autour de cette zone. En gros, il y a eu des bonnes actions qui ont été menées. Seulement, il y a eu des interruptions dues au Covid qui ont affecté la production et les revenus de l'entreprise.
Lorsque les journalistes ont visité la zone, il n'y avait aucune preuve de travaux en cours. Pendant ce temps, le vieux Ziou continue d'appeler les responsables gouvernementaux à venir vivre même dans le taudis et la misère dans lequel il survit à peine.
Le président américain Joe Biden se rend ce jeudi en Corée du Sud et au Japon après avoir accueilli les dirigeants d'Asie du Sud-Est à la Maison-Blanche la semaine dernière. C'est un signal clair que la région Indo-Pacifique reste sa priorité, même si Washington se concentre en ce moment sur la guerre en Ukraine. Un reportage de la correspondante de la Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche, Patsy Wedakuswara, qui voyage avec le président. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Après un sommet de deux jours avec les membres de l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est, le président Joe Biden se rend à Séoul et à Tokyo. Malgré une guerre qui fait rage en Ukraine, ce déplacement est un signal que la région de l'Indo-Pacifique reste la priorité de l'administration Biden et la Chine son plus grand défi stratégique. Il s'agit d'une synergie entre le renforcement de coalitions transpacifiques et transatlantiques, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.
La capacité unique du président Biden à faire le lien entre ces deux coalitions sera, je pense, la marque de fabrique de sa politique étrangère.
À Séoul, M. Biden va rencontrer le tout nouveau président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, après une série d'essais de missiles balistiques par Pyongyang. Les responsables se préparent à un nouveau lancement pendant le séjour de Biden dans la région. À Tokyo, M. Biden participera au sommet du partenariat au sein de la quadrilatérale avec le premier ministre japonais Fumio Kishida, le premier ministre indien Narendra Modi et le premier ministre australien Scott Morrison ou son rival Anthony Albanese, selon le vainqueur des élections australiennes samedi. Biden se servira de la crise ukrainienne pour signaler à la Chine que les changements unilatéraux du statu quo par la force, que ce soit à Taïwan ou dans les îles contestées de la mer de Chine méridionale, sont inacceptables. Robert Daly, directeur de l'Institut Kissinger sur la Chine et les États-Unis, auprès du Wilson Center.
L'administration Biden veut qu'il soit très clair que Taïwan bénéficie d'un fort soutien dans toute la région et qu'il existe des capacités énormes dans ce pays, comme il s'est avéré qu'il en existe dans l'alliance transatlantique vis-à-vis de l'Ukraine.
La quadrilatérale discutera également du récent accord de sécurité entre les îles Salomon et Pékin, qui a suscité des craintes quant à l'installation d'une base militaire chinoise dans les eaux stratégiques du Pacifique Sud. Susanna Patton, chercheure à l'Institut Lowy et experte en stratégie indo-pacifique.
Il a été fondamental pour l'Australie de considérer sa propre sécurité, que des puissances hostiles ne puissent pas projeter une force contre l'Australie depuis le Pacifique.
À Tokyo, M. Biden lancera le cadre économique indo-pacifique, la pièce maîtresse de la politique économique de son administration dans la région, depuis le partenariat transpacifique, l'accord de libre-échange que l'administration Obama a signé en 2016 et dont l'administration Trump s'est retirée en 2017. Il existe peu de détails sur ce cadre économique, mais une chose est sûre, il ne comprend pas les éléments de libre-échange que les pays de la région souhaitent. Bien que plusieurs pays aient manifesté leur intérêt pour ce cadre économique, Pour certains observateurs, cela signifie que les États-Unis n'ont toujours pas de stratégie commerciale attrayante pour contrer le poids croissant de la Chine.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.